Alors bonjour à tout le monde. Alors c'est vrai que ce matin, il y a quand même des places sont clairsemées. Hein. Il y a des tas de raisons. Guy vous en a énuméré certaines, hein. Des mariages, des obsèques. Il y a aussi des vacances scolaires. Mais vous qui nous visitez, vous êtes là. Et cela donc rajoute à la joie des quelques habitués qui sont là ce matin. Alors quand je suis arrivé ce matin, mon frère Guy m'a dit « François, est-ce que tu as un PowerPoint, enfin de quoi afficher donc pendant ton propos ?» Ben, je lui ai dit non. Ce matin, ce sera à l'ancienne. Hein. Alors, ça veut dire que, à concurrence de ne pas vous endormir, si vous pensez que pour être mieux concentré, il vous faut les yeux fermés, alors vous pouvez. Vous n'aurez besoin que de vos oreilles, celles de votre corps et des oreilles de votre cœur aussi. Alors dans le premier cantique, et entre autres, hein, mais le tout premier cantique, il a été question de la joie, hein, notamment de la présence du Seigneur et de sa parole. Ça a été le conseil aussi aux jeunes mariés d'hier, conservez dans votre couple la joie. C'est vrai que les nouvelles durant cette année 2016 de notre pays de France et du monde en général ne sont pas de nature à nous conserver de la joie et peut-être même de la tristesse et voire même, sans doute aussi, de la crainte. De la peur. Alors, j'ai pour vous ce matin, en introduction, quelques informations de portes ouvertes. Irak. Aucun chrétien n'est toléré dans les zones sous contrôle du groupe État islamique et les chrétiens d'origine musulmane sont sévèrement persécutés dans tout le pays. En juin 2014, une version stricte de la charia a été promulguée dans les territoires aux mains du groupe État islamique. Les chrétiens résidant dans ces territoires ont dû choisir entre se convertir, fuir ou rester en payant une taxe en tant que minorité religieuse. Beaucoup de chrétiens ont préféré partir. Les chrétiens les plus persécutés en Irak, je continue de citer les portes ouvertes, sont les chrétiens d'origine musulmane, mais dans les régions aux mains du groupe État islamique, tous les chrétiens ont été soumis à une très forte oppression. Dans les territoires dirigés par l'État islamique, il n'y a quasiment plus de chrétiens. Les monastères et les églises ont soit été détruits, soit transformés en étables ou en mosquées. Il est impossible d'avoir une vie d'église dans ces zones. Il y a tout juste 10 ans, la communauté chrétienne irakienne était des plus nombreuses du Moyen-Orient. Des chrétiens vivent dans ce pays depuis 2000 ans, mais aujourd'hui, ils sont en voie d'extinction. Il n'y aurait pas plus de 300 000 chrétiens aujourd'hui en Irak sur les 1,2 million du début des années 90. Le nombre total des chrétiens en Irak est également un sujet sensible à cause de ses implications politiques, c'est-à-dire qu'il détermine donc le nombre de chrétiens, il détermine le nombre de sièges pour les chrétiens à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un siège pour 100 000 chrétiens. Alors, en connaissance de tout cela, vous êtes nombreux sans doute à recevoir le fil rouge, les informations régulière de portes ouvertes. En connaissance de tout cela, le titre du dernier fil rouge, info de portes ouvertes, est « Les chrétiens reviendront-ils à Mossoul ?» Alors, je sais pas, j'ai peut-être plombé un peu l'ambiance par cette introduction, puisqu'on parlait de la joie notamment. Alors, mon objectif n'est pas de poser, bien sûr, une chape de plomb ce matin, mais plutôt de tenter de nous encourager. Aussi, j'ai trouvé que le titre qui pourrait le mieux convenir à ce moment de partage, c'est « Contre vents et marées ». Car je crois, oui, je pense que l'on peut trouver un encouragement certain alors même que tout voudrait ou pourrait nous décourager. Il est certain que ces situations décrites sont très loin d'être uniques, la preuve, Mustapha nous a donné un exemple tout à l'heure, et que ces situations donc peuvent nous faire poser un certain nombre de questions, comme par exemple, est-il bon d'être chrétien aujourd'hui? Quel avenir pour les chrétiens dans notre monde aujourd'hui? Faut-il toujours prêcher la parole, l'évangile du salut? D'où cette question de portes ouvertes, les chrétiens vont-ils revenir à Mossoul? Et personne ne peut répondre par l'affirmative à cette question, et surtout pas à la place des chrétiens irakiens. Et portes ouvertes fait bien de conseiller la prière. Alors je vais vous ramener maintenant quelques 3000, comme vous avez beaucoup de mémoire, quelques 3500 ans en arrière, où un homme s'est posé à peu près la même question, faut-il y aller ou pas? Une question tout aussi cruciale à l'époque pour lui, et il s'agit de Jacob. Alors, juste un peu pour l'historique, donc, un des fils de Jacob, comme vous le savez, Joseph avait été vendu par ses frères, puis il s'est retrouvé en Égypte, et les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé quand même le second du royaume derrière Pharaon, donc avec une position privilégiée, et que par son action, il a permis entre autres à l'Égypte de passer des moments où la famille régnait, des moments plus confortables. Et comme il avait cette position un petit peu privilégiée, il a obtenu quand même une grâce de Pharaon de pouvoir faire venir donc sa famille en Égypte pour les sortir un petit peu de cette famine. Et donc nous allons prendre notre lecture à ce moment-là où donc Joseph renvoie ses frères vers son père Jacob pour l'inviter à venir en Égypte. Donc il s'agit donc des textes de Genèse, au chapitre 45. Et donc on va prendre à partir du verset 25, dans Genèse 45, à partir du verset 25. Et nous irons jusqu'au verset 3 du chapitre 46. Donc il est parlé là donc des frères là, de Joseph. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et il dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Et donc, ces versets, donc du tout premier verset du chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis Dieu !» Le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Donc jusque-là, la parole. ne crains pas de descendre en Égypte. Alors les craintes de Jacob. Alors, en fait, lui ne nous en dit rien dans les textes que nous avons lus. Mais il semble que Dieu, lui, lise dans son cœur, car il lui dit, l'Éternel lui dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Quelle pouvait être la nature des craintes de Jacob? Pensait-il que l'expérience de son grand-père, Abraham, dont le séjour à l'Égypte, même s'il fut court, n'avait pas été une belle réussite? D'ailleurs, Abraham s'était rendu en Égypte alors qu'il n'avait pas été invité par l'Éternel à le faire. Jacob pensait-il à son père Isaac, à qui Dieu avait dit « Ne va pas en Égypte ». Le premier, Abraham, y est allé de sa propre initiative. Le second, Isaac, voulait y aller, mais il n'y a pas été autorisé par l'Éternel. Pour Jacob, donc, qui est appelé Israël, il y a de quoi hésiter à partir en Égypte. J'y vais ou j'y vais pas? Mais est-ce que ce sont là les seules et véritables sources d'inquiétude ou de questionnement de Jacob que l'expérience de ses deux ascendants? Dans Genèse, un peu plus haut, au chapitre 15 et au verset 13, il nous est dit, Dieu dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, qu'ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Peut-être que Jacob connaissait cette déclaration de Dieu faite à son grand-père. Peut-être qu'au coin du feu, son père Isaac lui avait raconté que ses descendants seraient opprimés et asservi. Et si c'est le cas, on comprend combien Jacob a de la crainte ou des réticences, peut-être dans son cœur, à faire partie de cette première génération qui connaîtra la servitude et l'oppression. Dieu donc, qui lit dans son cœur, lui dit, nous l'avons lu, ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation, moi, je descendrai avec toi en Égypte. La promesse initiale, je dirais, qui est réitérée aux trois patriarches, comportait la précision de l'accroissement du peuple élu. L'accroissement du peuple élu. Je ferai de toi une grande nation. Et donc, dans cet encouragement à aller en Égypte, l'Éternel rappelle à Jacob qu'il le fera devenir une grande nation. Au moment où Jacob part en Égypte, on le voit un peu plus loin à la fin du chapitre 46, au verset 27 en particulier, il nous est dit que ceux qui partirent étaient au nombre de 70. Habituellement, c'est une moyenne, on est là à peu près, hein. Dans ce local. C'est à la fois beaucoup pour une famille, 70 personnes, mais c'est vraiment très peu face à la fois à la promesse, mais aussi au challenge de devenir une grande nation. 70 personnes. Selon Genèse 15-13 que je vous ai lu, il est question d'une servitude de 400 ans. Si l'on est terriblement impressionné par la durée de cette servitude, on pourrait quand même se demander comment ces 70 personnes ont pu vivre et s'accroître dans une servitude si dure et si longue. Et peut-être que la réponse à cette question peut se trouver toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, au moment où l'Éternel réitère sa promesse à Abraham, il lui dit ceci, notez bien, « Je te rendrai fécond à l'extrême. » Je te rendrai fécond à l'extrême. C'est véritablement l'action de Dieu qui a permis à, je dirais, ces tout juste 70 personnes de devenir un peuple nombreux. Et dans le début du livre qui suit, le tout premier verset, du premier chapitre de l'Exode, les versets 5 à 7, on découvre que le peuple, donc, juif en Égypte, est si nombreux, après quatre générations plus tard, il nous est dit qu'à ce moment-là, il était dénombré 630 000 hommes. Quatre générations plus tard. Alors, 630 000 hommes, ça veut dire que les femmes ne sont pas comptées. Ça veut dire qu'elles ne comptent pas, mais elles ne sont pas dénombrées, là, dans les 630 000. Et puis, il y a les enfants aussi, qui sont en grand nombre. Et donc, parmi les personnes, les plus spécialistes, ils évaluent, donc, le peuple-là, quatre générations après, à plus de 2 millions de personnes. En quatre générations, de 70 personnes à plus de 2 millions de personnes. Je crois que tu nous as parlé de l'agglomération lyonnaise de 1,2 million ou 3 millions, on va dire deux fois plus. C'est-à-dire à peu près nous ce matin, au départ, et puis deux fois l'agglomération lyonnaise en quatre générations. Voilà. Extraordinaire. Et on peut donc considérer que c'est à ce moment-là, donc, durant ces quatre générations, qu'ont commencé les premières persécutions du peuple d'Israël, alors même qu'ils deviennent un peuple, mais sans avoir de terre et de pays sinon promise. Un peuple sous la servitude, un peuple objet de ségrégation raciale et de rang, nous est-il précisé dans Genèse 43, car on voit que Joseph, malgré sa position de second d'Égypte, eh bien, il est servi à part. Et il mange à part parce que, pour les Égyptiens, c'était une abomination de manger à table avec les Hébreux. Et puis, il y a aussi un peuple objet de ségrégation de métier, puisque ce peuple-là est isolé, nous est-il dit dans les lectures qui concernent ces instants, à Goshen. Goshen, c'est une région, je dirais, du delta du Nil, là, ils sont là isolés parce qu'ils sont éleveurs. Et que les éleveurs, eux aussi, sont en abomination aux yeux des Égyptiens. Donc, ségrégation de race, de rang, de métier. Mais une telle persécution, et pendant si longtemps, n'a pas pu annuler la promesse. Elle l'a même confirmée. Le désir de Pharaon était d'empêcher le peuple juif de croître, Exode 1:10, mais qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut empêcher le peuple élu de s'accroître, de grandir? Alors, malgré l'organisation, je dirais, pernicieuse de Pharaon, qui avait désigné des hommes responsables pour faire souffrir le peuple, rien ne pouvait empêcher celui-ci de grandir. Eh bien, je vois là vraiment un formidable encouragement pour tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Et pour l'Église de nos jours également. Aujourd'hui aussi, Satan désigne également des hommes ou des femmes, des groupuscules ou des pays pour faire souffrir le peuple de Dieu. Alors, quelques chiffres. Dans le journal du Figaro, je cite, en 2015, il était recensé 150 à 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde. De nouveau, quelques informations de portes ouvertes. Inde. Le niveau de persécution des chrétiens est alarmant. Libye. Plusieurs années après Kadhafi, les chrétiens sont en danger. Égypte. Assassinats, attaques au couteau, incendies criminels, la violence contre les chrétiens ne cesse d'augmenter. Etc. Etc. Car la liste est longue en ce qui concerne les souffrances infligées aux chrétiens. Néanmoins, l'Église de Jésus-Christ grandit. Et dans son index mondial de la persécution, Portes Ouvertes a édité un tableau qui fait état d'une cinquantaine de pays à peu près dans le monde où les chrétiens sont persécutés. Et donc, parmi ces 50 pays, ce que dit Portes Ouvertes, c'est que dans les 20 premiers apparaissent des pays comme la Chine, comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et que c'est dans ces 20 premiers pays-là qu'il est aujourd'hui recensé le pourcentage le plus important de progression des chrétiens. Plus près de nous en France, où les chrétiens sont pas véritablement persécutés, on est confortable, on va dire, mais où du moins où les valeurs chrétiennes sont combattues, ça on le sait. Alors, quelques données évangéliques, celle du CNEF, par exemple, en 2015, donc je cite, « À titre de comparaison, la France compte un millier de lieux de culte luthéro-réformés et plus de 16 000 paroisses catholiques. De 769 églises en 1970, les évangéliques, dont nous faisons partie, sont passés à près de 2 200 lieux de culte, dont de 769 églises en 1970 à plus de 2 200 lieux de culte aujourd'hui. Alors, la première fois que l'Église est mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus dit à Simon-Pierre, « Et moi, je te dis, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Par cette déclaration, Jésus précise plusieurs choses. Il parle de son Église. Il dit que c'est lui qui l'a bâtie. Il dit que rien ne pourra la détruire. En quelque sorte, Jésus dit, ça va être difficile pour mon Église. Pour certains, jusqu'à la mort. Mais c'est mon Église. Et je la bâtis. Alors, du temps de Joseph, le peuple juif en Égypte n'a pas grandi par ou grâce à la persécution et aux souffrances, mais grâce à Dieu. Et cela même au milieu de la souffrance. Aujourd'hui encore, l'Église de Jésus ne grandit pas par le moyen de la souffrance, mais par la propagation de la parole. Et cela, au milieu, et c'est-à-dire malgré la souffrance, malgré les tribulations, malgré les persécutions. L'Église de Jésus-Christ grandit. Alors, grandir, en fait, pour l'Église, c'est l'œuvre de Dieu pour l'Église. Et c'est une bénédiction pour l'Église. Dans le livre des Actes, on trouve, entre autres, trois emplois du terme grandir, donc vraiment dans le sens de croître, et qui s'appliquent tous les trois à la parole de Dieu, alors même qu'il est question de l'accroissement de l'Église. Et cela est dit quelque part comme un refrain qui revient pour scander un petit peu le contenu du livre des Actes. Au chapitre 6, par exemple, il est dit « La parole de Dieu croissait ». Et puis, c'est la même chose au chapitre 12, au verset 24. Et puis c'est encore la même chose au chapitre 19 et au verset 20. Ces trois mentions de la parole qui grandit, qui se propage, balisent en fait trois étapes de la croissance de l'Église du Seigneur. D'abord dans Actes 6-7, la parole de Dieu grandissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. On voit ici très clairement et de manière indissoluble le lien qu'il y a entre la croissance de la parole et la croissance de l'Église. Mais avec une primauté pour la croissance de la parole. C'est ça qui est important. Ce verset-là, qu'on vient de lire, donc, concerne l'étape de Jérusalem, c'est-à-dire le point de départ de l'évangélisation du monde entier. Ensuite, au chapitre 12, au verset 24, et ce verset-là concerne la propagation de l'Église un petit peu plus loin, en Samarie, en Judée, en Syrie, etc. Et dans cette nouvelle étape de l'expansion de la parole et de l'Église, il est formulé ceci. La parole de Dieu croissait et se multipliait. Et si le sujet donc de ce texte reste l'Église, on voit que l'acteur principal est la parole qui croissait. Et enfin, après avoir décrit la propagation donc de la parole et de l'expansion de l'Église jusqu'en Grèce et dans d'autres villes, Athènes et autres, Luc nous dit donc au chapitre 19 et au verset 20, c'est très important, par la puissance du Seigneur. Sous-entendu, c'est moi qui le dis, c'est pas marqué, mais sous-entendu, c'est pas avec le savoir-faire des apôtres, hein, ou leur stratégie, ou leur capacité d'évangéliser, que la parole grandissait et se fortifiait, mais par la puissance du Seigneur, la parole grandissait et se fortifier. Toujours dans les Actes, au début de l'Église, au moment de la Pentecôte, il ne nous est pas parlé de 3000 hommes qui s'ajoutèrent à l'Église, mais de 3000 hommes furent ajoutés. Mais par qui? Hein? Ajoutés par qui? Non pas par le talent de Pierre, même s'il était certainement un excellent évangéliste, mais ajoutés par Dieu. Ajoutés par Dieu. Alors, bien que ce livre s'intitule le livre des Actes, puis on glisse facilement les Actes des apôtres, hein? Quant à la croissance de l'Église du Seigneur, le maître d'œuvre reste le Seigneur. Acte 2, 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour les personnes sauvées. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Alors cette expansion de la parole correspond pleinement à la promesse que le Seigneur avait faite. Au moment de quitter ses disciples le jour de l'ascension, vous serez mes témoins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les porteurs de ma parole. Vous serez les porteurs de ma parole. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Rien, ni personne, ne peut empêcher l'Église du Seigneur de croître dans le monde et dans le monde d'aujourd'hui. Toutes les difficultés rencontrées, tant pour les descendants de Jacob, pour l'Église primitive, comme pour l'Église du Seigneur aujourd'hui, aucune des multiples persécutions n'ont pu et ne pourront empêcher le peuple du Seigneur de grandir. Les difficultés et les persécutions ne viennent pas d'un combat des hommes contre une religion, ou d'un combat des hommes contre des religieux, ce qui peut parfois le faire croire. Mais c'est le combat de Satan contre la volonté de Christ à vouloir sauver les hommes et faire croître son Église. Quand Pharaon dit en Exode 1 et au verset 10, parlant du peuple juif, « Empêchons-le de s'accroître !» Pharaon est l'instrument du diable qui tente de s'opposer à la volonté et à la décision de Dieu de se faire un peuple nombreux qui lui appartienne. De la même manière, de nos jours, les persécutions des chrétiens par des hommes, par des communautés, par des pays, par des gouvernements, sont les mains armées de Satan qui tente, s'il était possible, d'empêcher l'Église du Seigneur de grandir. Mais rien ni personne ne peut parvenir à stopper cette multiplication des rachetés de Christ. Alors en conclusion, je voudrais juste laisser un bref rappel du caractère et de la nature de l'Église, c'est-à-dire de nous aussi. D'abord son essence. L'Église n'est pas de ce monde, c'est ce qui nous est dit dans Jean. C'est le Seigneur qui le dit, « Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » La nature, là c'est un peu plus dans Éphésiens, « Comme élus de Dieu, ceux qui composent l'Église d'aujourd'hui, vous et moi, ils sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ensuite, la position de l'Église, elle est glorieuse. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, toujours dans Éphésiens. L'héritage de l'Église. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et là, c'est dans 1 Pierre. L'espérance de l'Église. Des croyants rendus conformes au Seigneur et prêts à partager sa gloire. Le Seigneur, dans sa prière, dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Quelle part bénie, quelle part glorieuse et heureuse que d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Quel encouragement pour nous de savoir que rien ne peut s'opposer à la croissance et à la destinée glorieuse de l'Église de Jésus-Christ. Et cela même, oui, cela même, au cœur des difficultés les plus grandes. Et l'apôtre Paul de s'exprimer aux Romains en disant « Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et après avoir énuméré la liste des souffrances infligées aux chrétiens de l'époque, Paul ajoute « Mais dans toutes ces choses, il vient d'énumérer toutes les difficultés, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, de la même manière que Dieu a dit à Jacob « Je descendrai avec toi à l'Égypte », qui est le symbole du monde sans Dieu, « Je descendrai avec toi en Égypte », et bien de la même manière, le Seigneur nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen.